Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien par ces douces chaleurs. Nous allons lire Hébreux, nous continuons notre étude de l'Épître aux Hébreux au chapitre 5. On va reprendre 5 à 10, s'il vous plaît, avec vos Bibles. Hébreux chapitre 5, versets 5 à 10. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Seigneur Jésus, je te prie que tu donnes de l'intelligence à mes frères et sœurs d'une façon particulière pour qu'ils comprennent bien ce que je vais dire ce soir. Parce que cela est de la plus haute importance. Des religions véhiculent des idées qui sont erronées. Je te demande, Seigneur, d'aider mes frères et sœurs à comprendre ce qui est écrit là. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Alors, nous avons vu vendredi passé que, comme dans le cas d'Aaron, Jésus ne s'est pas attribué à lui-même la gloire d'être souverain sacrificateur. Il a reçu cette gloire, cet honneur, de Dieu lui-même, son Père. La déclaration divine, contenue dans le verset 2 que Paul nous donne ici, fait ressortir vraiment magnifiquement le contraste entre les deux sacrificatures, entre les deux prêtrises, si vous voulez. Paul nous démontre clairement que la prêtrise de Christ, la sacrificature de Christ, n'appartient pas du tout à celle d'Aaron. Déjà à cause de la famille. Mais ensuite, c'est beaucoup plus excellent. Elle est infiniment plus excellente. Dieu le Père a dit à Jésus, « Tu es mon fils, moi je t'ai engendré aujourd'hui. » Et Dieu l'a glorifié dans un but, celui de devenir sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. On va venir sur ce, qu'est-ce que c'est la prêtrise ou l'ordre de Melchisédek, la sacrificature de Melchisédek, les vendredis qui viennent. Cette parole, elle est sortie de la bouche de Dieu. Et la sacrificature de Christ, elle est perpétuelle. C'est pour l'éternité, personne ne peut avoir cette sacrificature, c'est la sienne, c'est sa prêtrise, elle est perpétuelle, elle est éternelle, c'est à lui, ça n'est pas temporel, ça n'est pas transmissible comme la prêtrise d'Aaron qui était transmissible, parce qu'Aaron il est mort, et puis il y a eu des successeurs, etc. Bon, ça pour Christ, non, il est sacrificateur pour l'éternité. Et les versets 7 à 10 nous montrent par quoi Jésus est passé, pour pouvoir être l'auteur d'un salut éternel pour les siens, et souverain sacrificateur pour eux dans le ciel. Alors, il est écrit que, dans les jours de sa chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant qu'il était vivant sur cette terre, dans un corps mortel semblable au nôtre, ayant participé donc au sang et à la chair, comme nous dit la Bible, tout comme nous, il était tenté comme nous, etc., mais il n'a pas commis de péché, il était là afin de pouvoir souffrir et donner sa vie pour nous, c'est-à-dire à notre place. Il a offert, avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais de quoi Paul parle-t-il là? Est-ce que Jésus, au jardin de Gethsémané, a demandé à Dieu, « Oh, éloigne de moi la croix, je ne veux plus y aller, j'ai peur, papa, au secours ?» Non, pas du tout. Écoutez bien, c'est là qu'il va falloir comprendre. Il parle donc, je crois que c'est Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux, je vous l'ai déjà dit, il parle du jardin de Gethsémané où, écoutez bien, le diable a voulu tuer Jésus afin qu'il n'aille pas mourir sur la croix. Si Jésus était mort au jardin de Gethsémané, le lendemain, dans tous les journaux de Jérusalem, on aurait marqué « Oui, le gourou qui faisait des miracles est mort mystérieusement dans un jardin, on l'a retrouvé mort, là, voilà. » Et puis ça se serait terminé comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que l'angoisse remplissait, c'était une angoisse satanique, une attaque du diable, réellement, ça remplissait son cœur et son aorte a lâché. Comment je sais ça? Parce que c'est le symptôme même quand vous suez des grumeaux de sang, c'est que vous avez quelque chose qui s'est passé, vous faites une hémorragie interne grave. C'est ça qui a provoqué une hémorragie, c'est parce que son aorte a lâché qu'il a eu une hémorragie interne et qu'il a sué des grumeaux de sang, comme nous dit la Bible. Pourquoi? Parce qu'il était angoissé jusqu'à la mort, parce qu'il était horrifié, parce qu'il était dans la frayeur de la croix. Mais il ne refusait pas la croix, mais il était effrayé, il y a de quoi être effrayé. Et Dieu l'a sauvé de cette mort-là, de cette mort dans le jardin. Dieu a ôté cette coupe de mort que Satan tendait à Jésus. Vous savez qu'autrefois, quand on voulait dire quand un empereur voulait que quelqu'un se suicide, il lui disait « bois la coupe ». Ça voulait dire « bois le poison et meurs ». Et là, Satan lui présentait la coupe de la mort. Déjà dans Jean 12, 27, Jésus, écoutez ce qu'il dit. « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Vous voyez? Jésus avait une trouille terrible de la croix, mais il voulait faire la volonté de Dieu. Il n'a jamais flanché. Jésus, pensant à ce qu'il allait subir à la croix, était rempli d'horreur. Vous avez vu dans Jean 12, 26, je viens de vous le lire, puis au jardin de Gethsémané, il nous est dit qu'il était triste à mourir. Écoutez, on va lire ça dans Marc chapitre 14, verset 33. Écoutez bien. Il prit, donc Jésus, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria, s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, il n'avait même plus la volonté de lutter contre la mort qui lui était présentée. Alors il dit, Père, ne tiens pas compte de ce que je veux, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il aille mourir sur la croix. Voilà ce que Jésus priait. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une heure? Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant, reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. » Voici, celui qui me livre s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas arrive avec, etc., toute l'histoire. Mon Dieu, au jardin, il était triste jusqu'à la mort. Vous savez ce que c'est que d'être triste jusqu'à la mort? C'est-à-dire triste à souhaiter de mourir. Le diable mettait ça en lui. Jésus, angoissé à mort, l'âme triste à mourir, éprouvant de la frayeur, en pensant à la croix, mais il a prié pour que Dieu éloigne la coupe de la mort que Satan lui présentait. Mais il n'a pas prié pour que Dieu éloigne la coupe de la croix, jamais. Il pria pour que Dieu éloigne la coupe d'angoisse, de tristesse, de frayeur qui faisait lâcher son cœur. Et Paul nous dit « il a été exaucé ». Si Jésus avait prié pour que la coupe de la mort à la croix lui soit épargné, ça ne serait pas écrit que Dieu l'a exaucé, puisqu'il est allé à la croix. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Ce qui nous prouve que Jésus ne priait pas pour que Dieu ne permette pas qu'il aille jusqu'à ce supplice de la croix, c'est que Paul le dit dans Hébreux chapitre 5 et verset 7. 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé. Dieu l'a sauvé de la mort. Il faisait une hémorragie interne. Normalement, si c'est à moi que ça arrive, je meurs. Mais Dieu l'a exaucé. Il n'est pas mort là. Il a encore été jugé, fouetté. Il a dû porter sa croix dans cet état-là. Dans cet état-là, mes frères et sœurs. Voilà dans quel état il était. Il a été exaucé. Dieu a empêché que Jésus meure au jardin comme un anonyme. Voilà, avec deux, trois copains là, meurt. Il est mort minablement dans ce genre. Alors qu'il était... Il était en train de faire une hémorragie interne grave, au point de suer des grumeaux de sang. Dieu n'a pas permis qu'il meure là. Jésus au jardin était si mal qu'il se sentait partir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir mal au point que vous dites « c'est pas possible, j'ai je m'en vais ». Il n'avait plus la force de lutter. Moi ça m'est arrivé dans des moments de souffrance avec ce cancer que j'ai eu il y a quelque temps, de me dire, ça y est, ma vie sort de moi, ça s'en va, j'ai plus la force de lutter, Seigneur. En Jean 14, 7, il dit qu'il n'a même plus la volonté de ne pas se laisser aller mourir au jardin. C'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite et pas la mienne, parce qu'il n'avait plus de volonté, il était complètement abattu, la horte qui avait lâché, il suait des grumeaux de sang, il faisait une hémorragie interne, il souffrait, non seulement d'angoisse, de frayeur, de tristesse, mais aussi physiquement. Au jardin, Jésus était mourant, il aurait dû mourir dans l'état où il était, le diable voulait le tuer là. Et il a prié que Dieu l'aide à ne pas mourir là, mais d'avoir le pouvoir d'aller jusqu'à la croix. Ça, c'était la volonté de Dieu pour notre salut, que Jésus aille sur la croix. Comprenez-vous maintenant pourquoi Paul, écrit que Jésus a été exaucé au jardin? En quoi a-t-il été exaucé si ce n'est pas dans ce que je vous dis? On ne peut pas imaginer ce que ça a été pour Jésus. Jésus, dans un dernier sursaut d'effort, soutenu par le Saint-Esprit, par Dieu, par amour pour nous, a prié pour que la volonté de Dieu soit faite et non pas la sienne. Et quelle était la volonté de Dieu? Jésus devait rencontrer la mort sur la croix. Pas une mort, non, la mort d'un jugement, à cause d'un jugement, le jugement de Dieu sur lui. Sur le péché qui était en lui. Il a été fait péché à notre place. Il a pris nos péchés. Et Dieu l'a laissé tomber. Il l'a abandonné. Il a rencontré le jugement de Dieu sur la croix. Lui, l'homme parfait. Il savait qu'il allait être abandonné par le Dieu juste, mourant comme le pire des pécheurs. Il est devenu la poubelle du monde. Il avait non seulement vos péchés, mais les miens et tous ceux des autres. Du monde entier, de tous les siècles. Est-ce que vous imaginez? Non, on ne peut pas imaginer. Alors généralement, les chrétiens pensent que Jésus, au jardin de Gethsémane, est prié afin que Dieu change son plan. Pas du tout. Pas du tout. Ça rabaisse mon Jésus. Ça rabaisse mon Jésus de penser une chose pareille. Jamais. Il a obéi. Il s'est soumis, bien que fils, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il a appris ce que c'est que l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, nous dit la Bible. Il était venu au monde disant, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté, et il l'a faite, et il n'a pas failli, jamais. Il a eu peur, il était angoissé, il était triste, il a même fait un arrêt cardiaque, mais il a été jusqu'au bout sur la croix, pour mourir pour vous, pour moi. C'est ainsi qu'il a été amené à la perfection, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. C'est ainsi qu'il a été amené à la perfection dans la place de gloire où il est maintenant. Alors premièrement, il est l'auteur du salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Et deuxièmement, il est salué par le Père éternel en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça, on étudiera après. Alors, ce salut n'appartient qu'à ceux qui lui obéissent. Il faut bien noter ça. Il n'est pas écrit que ce salut, il appartient à ceux qui croient en lui. Non.
Oh bon ? Mais Michel, je croyais qu'il suffisait de croire en Jésus pour être sauvé.
Attendez. Nous sommes sauvés par nos œuvres ou par la foi ? Écoutez-moi bien. Il est parlé ici de l'obéissance de Christ qui l'a amené à la gloire, et le Saint-Esprit nous montre que ceux qui croient en lui ont à suivre la même voie. Pas d'aller à la croix, mais de porter leur propre croix. Et même d'aller jusqu'à mourir pour leurs amis. De donner leur vie pour les autres. On ne peut pas obéir à Christ, se soumettre à lui pour le salut, si ce n'est qu'en croyant en lui. Alors bien sûr, c'est d'abord la foi, on croit en lui. Mais quand on croit en lui, on l'obéit. On fait ce qu'il veut. Sinon on est des rigolos. On est des religieux. On étudiera vendredi prochain la prêtrise, Dieu voulant, hein, selon l'ordre de Melchisédek. Mais déjà, on a établi une chose importante par la Bible, par les Saintes Écritures, par ce que l'apôtre nous laisse, c'est qu'il n'y a plus de prêtrise d'Aaron. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, aide mes frères et sœurs à bien saisir tout le poids de gloire d'importance qu'il y a dans ce message. Dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir.